Montreuil, jeudi 8 février.
Alors, je monte mon gain, 1-1-1-1, voilà, nickel. Et le tien, si tu peux parler.
Bonjour, bonjour, bonjour. Le chat, tu nous laisses tranquille. Et tu montes pas sur l'ordi, s'il te plaît.
Comment il s'appelle le chat?
Il s'appelle Charlie. Écoute, il est jamais là, mais là, forcément.
Bah hey, oui, mais là, il est trop curieux.
Bah oui, qu'est-ce qui se passe? C'est pas comme d'hab. Tu fais pas de bruit, d'accord?
La carte et le territoire.
Un podcast de Clémence Bayot d'Estivaux. Marie Sauvet. Bonjour et bienvenue dans La Carte et le Territoire, le podcast consacré aux acteurs et actrices du monde de la musique et à leur relation au territoire. Aujourd'hui, je suis chez Marie Sauvet. Bonjour Marie.
Bonjour Clémence.
Merci de me recevoir chez toi pour cet enregistrement. Marie, pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas, parce que tout le monde ne te connaît pas sous le nom de Marie Sauvet, il faut le dire, je vais te demander de nous raconter ce que tu fais dans la vie.
Ce que je fais présentement ou ce que j'ai fait?
Les deux.
Les deux, les deux. Bon alors présentement c'est très simple. Je suis légèrement âgée et désormais à la retraite. Et donc je partage ma vie entre Paris et le fin fond du Berry, que j'aime beaucoup.
Mais tu n'es pas connue sous le nom de Marie Sauvet, et là je vais te laisser développer pour nous dire ce que tu as fait.
C'est vrai, c'est vrai. Donc je me suis appelée pendant un certain temps Marie Yacoub, car j'étais la femme de Gabriel Yacoub. Nous sommes épousés très très jeunes, 19 et 20 ans.
Wow.
C'est joli, hein. Voilà, donc sous le nom de Marie Yacoub, j'ai fait partie du groupe Malicorne que nous avons créé, Gabriel et moi, dans les années... Oula. Je ne sais même plus quand ça a démarré. 73, 14.
Moi, j'ai 73 comme source, mais,
ouais, 73.
Mais tu sais ça mieux que moi.
73, oula.
Et d'où ton beau nom à particules, Marie de Malicorne, qui est ton, voilà, le nom, ouais, le plus connu presque.
Oui, c'est joli, hein, Marie de Malicorne.
Ah, c'est très beau.
C'est classe.
C'est très musical, ça sonne super bien. Alors, l'émission s'appelle La carte et le territoire. Donc, je vais te demander, Marie, quelles sont tes définitions du mot territoire?
Ah, territoire, oui. Alors, parce que ça peut être tellement de définitions... différentes. Le territoire pour un animal, c'est là où il se sent chez lui, ses proies et tout. Pour un être humain, c'est quoi? Ben, c'est l'endroit où il habite, qu'il connaît, qu'il définit par sa manière de vivre, ses coutumes, son climat, ce que l'on y mange. Ça serait ça, un territoire. Ou alors... Il y a aussi le territoire, j'allais dire, culturel, ce qu'on fait, avec qui on est.
Si, justement, on peut parler des territoires de ce point de vue-là, d'un point de vue un petit peu plus symbolique ou abstrait, mais...
Oui, mais alors là, c'est pas... Ouais, non, pour moi, c'est pas vraiment territoire. Un territoire, pour moi, c'est vraiment... C'est délimité, c'est de la terre.
C'est géographique.
C'est géographique, oui, oui.
Et quand on fait de la folk, est-ce que ça résonne autrement? Je mets l'étiquette folk,
oui,
sur ma licorne. Bon.
Oui, oui, oui.
Ce n'est qu'une étiquette. Mais...
Non, non, mais folk, néo-folk, tout ça. Oui, oui, c'est folk. Oui, parce que cette musique, c'est vrai, ben, là, vient de territoire, pour le coup. Vient de lieux bien précis, de manière de chanter, de jouer, de danser, qui sont différents d'un territoire à l'autre. Donc... là, on revient au territoire sur la musique folk, oui.
Et comment est née Malicorne? De quoi c'est venu?
Alors, c'est venu Gabriel, à cette époque, était guitariste de Alan Stivell. Alan Stivell qui a, lui, démarré ce genre de musique par la musique celtique et qui a eu vu l'identité très très forte de la Bretagne. A eu assez vite du succès, une renommée, etc. Donc Gabriel Yacoub, d'origine libanaise, ce nom n'avait rien de breton, chantait en breton, trimartelodiaque et tout ça, Et il aimait beaucoup ça. Puis à un moment donné, il s'est dit, mais c'est idiot, pourquoi je ne ferais pas pareil avec le répertoire français. Et du coup, il a quitté Stivell et a démarré l'idée de créer un groupe. Le nom, on l'a trouvé comme ça par hasard sur la route. Malicorne.
Dans la Sarthe.
Oui, en allant vers la... Il y a plusieurs malicornes, il y a des lieux-dits et tout ça. Il y a plusieurs interprétations de ce nom d'ailleurs. Mais ça sonne bien, ça sonne un peu magique, licorne,
ah,
malicorne.
Oui.
Voilà. Et tous les deux, on s'est mis à décortiquer des vieux répertoires, à essayer de les déchiffrer, à rencontrer des personnes âgées qui nous chantaient des chansons de leur jeune temps, des veillées, à contacter, enfin voilà, à chercher ce qu'il pouvait y avoir en France comme répertoire de chansons traditionnelles.
Donc vous avez fait un vrai travail de collectage.
C'est ça, un petit peu, ouais.
Et comment vous avez trouvé ces personnes pour vous chanter leurs chansons
Alors, beaucoup justement dans le centre de la France. Et on connaissait pas mal de musiciens dans ce coin-là, où la musique était encore bien assez vivante. Joueurs de cornemuse, joueurs de vielle. Groupe dit folklorique, mais ce mot on l'aimait pas, parce que justement ça fait un petit peu de mal, ce genre de musique, d'image de groupe folklorique triste, poussiéreux, toujours un peu terne, on change pas la moindre chose, le moindre pas, le moindre, ça faisait musée. Et par contre on en a connu dans le Berry, les Thiolins de Linières par exemple, avec des jeunes, avec et qui vivaient ce genre de patrimoine comme des jeunes maintenant vivent la musique électronique. C'était pour eux l'évidence, c'était pas du tout du musée.
C'était donc, vivant en fait.
C'était tout à fait vivant, oui. Ils dansaient, ils chantaient, ils jouaient. Et donc on s'est, ils nous ont appris pas mal de choses. Il y a eu d'autres groupes, d'autres sources comme ça, et puis des personnes plus âgées, la Dédé Dufaux, la grande Dédé Dufaux du Berry également, qui quand on la met en confiance et qu'elle aime bien les gens, peut nous chanter du Charles Trenet et tout ce qu'elle a aimé, et puis elle part après dans ses souvenirs et elle nous a livré des petits trésors comme ça, des chansons traditionnelles qu'elle chantait quand elle était toute petite. Et il y avait aussi les grandes chansons traditionnelles qui en fait avaient été un peu oubliées, mais ça va du petit tambour de chanter par comment elle s'appelle, Nana Mouskouri, je sais pas, des ballades, des... Et il y a eu des gens qui avaient fait du collectage après-guerre, beaucoup dans les campagnes. Et il y a le...
Par hasard, ou on sait s'il y a une raison politique à ça ?
Non, c'était des gens qui se sont aperçus que tout ça allait se perdre. Et ils ont parcouru les campagnes avec un micro, allé dans les fermes, et ils ont fait un boulot de fou vraiment, vraiment incroyable. Sinon, ça se serait perdu. Et dans ce livre, le Barbilla Touraine, c'est un trésor, quoi. C'est épais comme ça, et il y a énormément de choses à prendre. Et on en a pris, d'ailleurs. Ouais.
Et après ça, a commencé le travail d'arrangement ?
Oui. Alors, c'est vrai qu'on n'était pas... on n'est pas... ni Gabriel, ni moi, ne lisions bien la musique. On savait déchiffrer un petit peu avec deux doigts sur un... Moi, ça s'appelait le guide chant, sur un guide chant, on avait. Et après, quand la mélodie nous convenait à peu près, on pouvait, on respectait pas forcément ni le rythme, ni on l'adaptait à ce qu'on avait envie de chanter, quoi. Ouais.
À l'époque, vos instruments, c'est guitare pour Gabriel, et toi, tu joues de la vielle à roue, mais c'était déjà dans votre instrumentarium ?
Un petit peu, oui, et puis dulcimer. Dulcimer, vielle à roue. Et Gabriel guitare, ouais. Très bon guitariste Gabriel. Je jouais de la guitare avant, mais quand j'ai rencontré Gabriel, j'ai abandonné.
À ce moment-là, vous êtes deux. Qui vous rejoint ?
Alors, qui nous rejoint ? On a demandé ensuite à Laurent Vercambre, qu'on avait rencontré. C'était les années 70, où déjà, cette musique, il y a des petits clubs de folk à droite, ouais, à gauche, surtout en banlieue parisienne. Nous, on allait à... il y avait le Bourdon à Paris, il y avait la Vieille Herbe, il y avait le TMS, c'est là que j'ai rencontré Gabriel d'ailleurs. Et dans ces lieux-là, mais on y jouait plutôt de la musique folk américaine, des Appalaches, du bluegrass, c'est bizarre, hein, il n'y avait pas grand-chose de français. Mais il y avait d'excellents musiciens. Et là, on a rencontré Laurent Vercambre, donc violoneux, parce que ce n'était pas un violoniste classique, genre qui arrachait sur son violon, qui jouait très très bien, et il a accepté de nous rejoindre. Gabriel était aussi connu de ces milieux-là avec sa guitare et ses répertoires. Et après Gabriel, il y a eu, ça c'est assez rigolo, tu garderas l'anecdote ou pas. Bon, Gabriel, à un moment donné, on venait juste de se marier, a été appelé aux 3 jours faire son service militaire. Il s'est rendu tellement malade que, bon, on l'a incorporé. Non, c'était pas les 3 jours, c'était incorporation directe. On l'a gardé une bonne semaine à l'infirmerie, tout ça. Et là, il a rencontré un gars qui faisait le même cirque que lui. Et il disait, mais mince, celui-là, il va me faire repérer, il fait l'idiot et tout ça. Et il s'appelle toujours Hugues de Courson. Donc, ils ont été libérés à peu près le même jour, P4, les deux. Ils ont copiné, ils se sont dit, Hugues, il faisait des musiques de pub, tout ça, mais il était musicien. Gabriel lui a expliqué son idée de éventuellement d'un groupe et tout. Et il a dit, moi je t'aide et je fais partie du groupe, je joue de la basse, je joue ce que tu veux. Et donc comme il était un peu plus âgé, un peu plus connaisseur du milieu, en tout cas de l'enregistrement, des studios et tout ça... Il est venu dans les premiers concerts où il y avait 6 personnes ou 7. Et après, c'est lui qui nous a trouvé la petite maison de disques et le studio dans lequel on a enregistré le premier album, Pierre de Grenoble. Voilà, donc quand même, merci Hugues, quoi. Donc ouais, il y avait Laurent, Hugues, Gabriel et moi.
Oui, et départ. Vous ne vous appelez pas encore Malicorne à ce moment-là?
Si, tout de suite. Ah, les premiers concerts, c'était Malicorne. Ah oui, ah non, mais t'as raison. Ça y est, je mélange tout. Oui, parce que sinon, on l'aurait appelé Malicorne, Pierre de Grenoble. Non, non, ça s'appelait pas Malicorne, tu as raison.
Ça s'appelle, il me semble avoir lu, hein, Gabriel et Marie Yacoub.
Oui. Tu vois, c'est moi qui... Tu connais mieux que moi. Ah oui, et comme cet album a eu un petit peu à intéresser les gens, c'est là qu'on a eu plus de confiance pour faire un groupe et essayer d'en vivre. Voilà.
Et ça a marché?
Ça a été un petit peu long, ça n'a pas marché tout de suite. Non, les premiers concerts, beaucoup en Bretagne, parce que forcément c'était plus facile de trouver des petits endroits pour jouer. Mais il y a des fois on avait 10-12 personnes, hein, on était complètement inconnus. Et puis, ce qui nous a fait... Dans Le Prince d'Orange, c'est bien sûr Pierre de Grenoble. Putain, je mélange tout là. Oui. Eh bien, c'est José Arthur, le pop club de José Arthur, qui a choisi Le Prince d'Orange. Alors, le pop club de José Arthur, c'était une émission musicale et culturelle tous les soirs sur France Inter. Et là, chaque semaine, il y avait le disque pop de la semaine. Et il a pris Le Prince d'Orange. Un truc a cappella complètement... C'était courageux et incroyable. Et du coup, ça, tout de suite, comme on passait 2 fois par jour sur France Inter, avec un truc très bizarre qui, soit les gens détestaient, soit ils se disaient, mais c'est quoi ça? Ça nous a aidés à aller beaucoup plus vite dans la reconnaissance.
C'est génial.
Ouais.
Je t'ai apporté des cartes pour que tu me racontes ton histoire géographique au fil des points que tu trouveras et que tu sélectionneras.
Mon point de vue géographique, bon, la France, hein, je suis très peu sortie de France avant un certain âge, enfin jeune, je voyageais pas, Bien sûr, la Bretagne, quand j'accompagnais Stivell avec Gabriel dans tous ses concerts, région que j'adore. Ah ouais, la Bretagne, c'est... bien sûr aussi le centre de la France, qu'on a beaucoup, beaucoup parcouru, de par sa richesse en répertoire trad et en musicien trad. Ensuite, l'Angleterre, beaucoup l'Angleterre, parce que on s'est également inspiré de groupes anglais tels que Still Icepan ou Martin Scorsese et les Waterson, qu'on allait voir, qu'on a eu la chance de connaître, et on aimait vachement l'Angleterre. Voilà, l'Angleterre. Je sais pas trop. Après, on a tourné pas mal aussi, bon, en Belgique, beaucoup. C'est génial, la Belgique. Tout le monde aime la Belgique. C'est un public tellement chouette. On y passe des bons moments, donc la Belgique. Oui, la chance après du Québec, quand même. Le Québec. On a des chansons pas mal aussi qui viennent du Québec. Eux, comme ils ont voulu absolument garder et le français et leur identité... En fait, ils avaient gardé beaucoup plus de chansons traditionnelles françaises que nous, les Français, qui avions dit « Oh, c'est du vieux, on s'en fiche ».
Oui, qui n'étions pas tournés vers ça, parce qu'on a besoin de recherche sur l'histoire de notre peuple aussi.
Les chanter encore, on prenait soin, quoi. Donc, le Québec...
Il y a des titres que vous avez trouvés au Québec et qui figurent sur des disques ?
Oui, le... Qu'est-ce qu'il y a ? La complainte du coureur de bois.
Oui.
Québec, il y en a d'autres, je ne sais plus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Bon, je les ai plus en tête, mais...
Mais c'est au Québec que vous avez pu trouver une chanson dont celui qui vous l'a donnée vous a dit « ça vient de France, telle époque, telle région ».
Oh, on était moins pointus que ça. Hein. Ouais, on n'était pas... On n'était pas des chercheurs ni des scientifiques en musique trad. Hein. On était, tu sais, on avait 20 ans et on faisait ce qui nous plaisait, sans bien réfléchir, en fait. C'est ça, on n'a pas eu une démarche stricte, on va sauver le... Pas du tout, non. Non, en fait, on est tombé amoureux de ce répertoire, parce qu'on sortait quand même, nous, des yéyés et tout ça. Hein. Oui. C'était pas... Bon, voilà. C'était pas extraordinaire ce qu'on pouvait écouter, mis à part les grands Brel, etc., bien sûr, Brassens et tout. Nous, on avait envie de se démarquer de ça. C'était toute l'époque, un peu retour à la campagne, métro, boulot, dodo, ça suffit, les débuts de l'écologie, les...
ça s'inscrit dans le post-68, en fait.
Oui, c'est ça, je vais aller élever des chèvres, etc. C'était... Et on a fait partie de ce mouvement-là. Donc, retour un petit peu aux sources, retour au vrai, retour au simple, et retour aussi à ce répertoire de chansons trad. Voilà. Mais on l'a fait... D'ailleurs, oui, c'est rigolo, parce qu'on... Pierre de Grenoble, quand je les réécoute, je me dis, mais pourquoi on chantait du nez comme ça ?
Pour faire trad.
Qui nous dit que c'était... Bon, c'est vrai que les gens qui chantaient du trad, les vieux chantaient un peu comme ça, avec une voix... Oui. Parce que c'était pas des chanteurs lyriques, c'était des... Ils devaient chanter fort, souvent. Et donc, on a un peu imité ce truc-là. Bon, c'est un peu idiot. Hein.
Non, parce que ça projette quand même. En technique vocale, si tu... Nasalise, ça va envoyer des aigus, non ?
Oui, c'est vrai. C'est vrai que ça donnait un son. Ça donnait un son spécial, oui. On n'est pas parti dans les grandes voix, justement, des chanteurs populaires, on va dire. Si on parle de Malicorne, ça va s'arrêter un petit peu là. Hein. Si on a tourné en Espagne, en Italie, en Suisse, pas mal... mais c'était comme tous les musiciens en tournée, on arrive, on fait le concert et on repart, quoi. C'est pas des pays que j'ai bien bien connus, sauf le Québec où on restait pas mal et l'Angleterre où on est allé très souvent.
Mais justement, comme tu disais que c'était les débuts de l'écologie, et là tu parles déjà de ces tournées où on arrive, on fait le soundcheck, on joue, on repart le lendemain. Est-ce que c'était déjà conscient que c'était un peu aberrant comme mode de fonctionner, et puis un peu complètement hors sol? Ou c'était pas
Bah,
des questions?
nous, pas vraiment, parce que déjà, on n'était pas du tout ni en jet privé, ni
Oui.
très loin de là. Il n'y a que pour aller au Québec qu'on a pris l'avion. Tout le reste, on avait un camion, un camion dans lequel on mettait la sono, nous tous, un vieux truc Mercedes et d'occasion. Et avec lequel on a fait pendant plusieurs années, on a fait tous les concerts avec ce. Donc on était à 5 ou 6 dans le camion, plus la sono. Oh, ça allait, bilan carbone, ça allait à peu
Ouais,
près. Ça allait
c'était
à peu
roots, quoi.
près, voilà. Non, non, on n'était pas du tout dans le grand luxe. Donc non, on ne s'est pas posé la question. Par contre, on faisait les premières manifs contre le nucléaire, la Hague et tout. Ouais, 60, 75, 16, les tout débuts. Alors, tout le monde contre le nucléaire. Bon, maintenant, c'est vive le nucléaire. Ouais.
Est-ce que c'est désespérant pour toi qui as connu ces époques?
Ah bah, si tu me lances là-dessus, moi, je suis complètement
Ah oui, je te lance là-dessus.
terrifiée. Ah, non, je suis très triste, très anxieuse. Éco-anxieuse absolument, je vois pas du tout vu ce qui se passe, vu qu'il est trop tard, donc moi vu mon âge, bon, c'est triste, mais bon voilà, j'ai une fille, les enfants, les machins, et puis ça me fait trop râler qu'on comprenne toujours pas. Alors c'est pas facile, hein. Mais bon, il y a quand même. Je me rappelle de René Dumont à la télé avec son col roulé rouge et son verre d'eau. Ça fait longtemps, longtemps qu'on est alerté. Et moi, je l'écoutais. Et les potes qui étaient partis élever leurs chèvres et qui vivaient de rien, ils savaient ça aussi. Non, il n'y avait pas les pesticides, pas les. J'ai vu les massacres du remembrement dans les campagnes. Plus de haies, plus de. Voilà, tout ça, j'ai connu les pare-brises constellés
D'insectes.
d'insectes et puis plus rien. Et puis là, ça va tellement vite, là, ça va tellement vite, la catastrophe. Tous les jours, on le voit. C'est dans le sud de l'Espagne où ils amènent l'eau par camion. Les gens ont plus d'eau au robinet. C'est
Oui.
en Espagne, c'est chez nous. Enfin. Ben voilà, je crois que personne n'a entendu le message. Et puis personne n'a envie de changer les choses parce que pour l'instant c'est pas encore trop grave et puis qu'il y a beaucoup d'argent à se faire encore en faisant des saloperies et que c'est beaucoup plus difficile et beaucoup moins rentable de faire les choses bien et donc on s'en sortira jamais, hein. On s'en sortira jamais. Ben, comment on a fait tout ça sans
Oui.
s'en soucier? Mais c'est vrai que moi je me rends compte que les années que j'ai vécues, moi, pas de guerre, il y avait quand même mes parents qui étaient secoués par l'après-guerre, enfin par la guerre
Oui.
elle-même. Ben moi, je suis née en 53, donc ça commençait vraiment à aller mieux. Là où tout le monde, justement, pouvait s'acheter ah, un frigo, ah, un machin,
Oui.
ah, un truc, ah, la voiture. Ah. Donc voilà, tout le monde était très heureux et moi, je me rappelle les rédactions et tout ça que je faisais au lycée et tout, c'est que l'Occident allait de mieux en mieux et qu'on allait tout partager. Mais on allait tout partager avec, on allait aider le tiers-monde, tout le monde allait être super heureux bientôt parce
Oui.
que les ressources étaient infinies,
Oui.
etc. Le raisonnement, c'était que pour qu'ils ne nous embêtent pas, il fallait qu'ils aillent bien aussi.
Oui.
Sinon, ils allaient nous envahir, ils n'allaient pas être contents. Alors, bon. Pas aussi bien que nous quand même, hein. On n'était pas du tout, non, non, n'exagérons pas, mais qu'on allait quand même les aider à être relativement bien pour que le monde soit gentil, souris, quoi. J'écrivais des pages et des pages là-dessus, hein, honnêtement. Et puis j'y croyais, pourquoi pas.
Oui, bah, si
Il y avait eu
c'était le mot d'ordre.
le miracle économique japonais, il y avait eu, tout le monde commençait à s'en sortir à peu près. Bon, ben nous, on pillait l'Afrique comme ça. Bon, ben c'était nos anciennes colonies, on gardait des liens, alors c'est normal. Enfin, voilà, on excusait toujours tout, quoi. Oui. Et puis, la première fois que j'ai entendu quelqu'un dire, moi, il y avait René Dumont, déjà, sur l'eau, ça, je me rappelle, on va manquer d'eau. Oui, c'était... Alors, tout le monde était là, fermer le robinet, tout ça. Non, éteindre l'électricité chez moi, alors qu'on n'était pas très riches. Non, ça coûtait pas cher, ça coûtait presque rien. Et puis, c'était pour la vie qu'on aurait ça, quoi. Enfin, pour la vie, pour des siècles et des siècles. Et par contre, j'ai quand même su relativement vite, quand les messages sont arrivés, qu'il fallait faire attention. Et personne n'écoutait, personne, personne. Voilà, j'ai voté écolo depuis je ne sais pas combien d'années. Et comme ils n'arrêtent pas de s'engueuler, ça ne marche pas. Non, je suis très... Ça me mine, hein, vraiment. Je peux pas me dire... Quand on me demande si je vais bien, ma réponse, c'est « moi, je vais bien ». Mais tout autour, ça me fait peur.
Oui.
Et j'ai pas ton âge. C'est pour les gens de ton âge et les plus jeunes.
Oui. Que je suis triste. Ah bah nous, on a une vraie génération d'éco-anxieux et ouais. Ceux un peu plus jeunes que moi, encore pire.
Ah oui. Alors il y a tout, t'entends tout. Mais non, l'être humain, il s'en est toujours sorti. La science va trouver des solutions. Nanana, nanana. Enfin, toutes les idioties qu'on entend, je me fâchais avant, puis maintenant je pars. Oui, j'arrive pas à répondre.
Puis c'est toujours pareil, qui va s'en sortir ? Nous, on sera les derniers à avoir des problèmes. Mais en revanche, dans certains pays qu'on a bien exploité, dont on a bien épuisé toutes les ressources naturelles, ouais. Je pense.
Mais regarde le problème que pose l'immigration actuellement. Regarde la montée des extrêmes, etc. On n'en est qu'au début. Les gens qui vont mourir chez eux, bah, ils partent, ils vont ailleurs.
Oui, c'est normal, on ferait
c'est
pareil.
C'est normal, on n'en est qu'au début. Voilà. Alors, maintenant, on va les ramener chez eux et puis on ne va pas les soigner. Et puis, non, ils viendront, quoi qu'on fasse. Quand il n'y a plus que sa vie à sauver, on fait tout. Et il y a tout ça, quoi. C'est pour ça que là, pour le coup, il faudrait plus partager. Ça, c'est sûr, ça serait vraiment le moment.
Oui.
Et de faire attention, surtout.
Finalement, le projet artistique de Malicorne, c'était de prendre soin de patrimoine qui existe déjà. Et c'était un peu écolo, symboliquement.
Oui, mais vraiment, ça allait avec ce mouvement que le métro, boulot, dodo, était et pouvoir s'acheter, justement, le frigo, la voiture, la télé, le machin, n'était pas satisfaisant, le matérialisme, et qu'il fallait trouver autre chose. Et ça fait vraiment partie alors les communautés, tout ça. Alors, toujours un peu utopique, hein, et c'est pas évident que ça marche. Les communautés n'ont pas beaucoup marché, pas très longtemps.
Pas longtemps, oui.
Non, pas très longtemps.
Et on en parlait en préparant l'émission. L'après Malicorne, tu passes un peu du tout au tout, puisque tu passes d'un projet folk dans un milieu un peu utopiste à l'industrie musicale.
Oui, ouais. Ça a été un pur hasard. Parce que, en fait. Malicorne marchait vraiment bien les dernières années, mais par contre, très honnête, peut-être trop honnête, mais on ne regrette rien, on n'a signé aucune chanson, même si on changeait les paroles, même si on changeait la musique, même on a tout mis trad, traditionnel. Parce qu'on avait été un jour bien dégoûté par Paul Simon qui nous fait El Condor Pasa, un plus trad ouais. Péruvien, ça vient de la nuit des temps, on ne sait pas quel berger et sa flûte de pan. Et il a signé Paul Simon. Alors ça nous a choqué, ça nous a vraiment choqué. Et on a dit, mais non, c'est vraiment quel escroc, quoi, ça va. Et nous, on ne le fera jamais, donc on ne l'a pas fait. Et donc, même si on vendait beaucoup de disques, ça nous rapportait. Ben, une part divisée par 4 ou 5 d'arrangements, ce qui était très peu, et un peu de royalty.
C'est les concerts qui vous faisaient vivre.
Les concerts, mais voilà, les concerts, c'est pareil, à l'époque, c'était pas. On voulait des prix pas trop chers de place et tout ça. Donc on en a bien vécu, mais pas de compte en banque fourni à l'arrêt du groupe. Et donc, moi, un petit peu. Bon, Gabriel, les autres ont fait leur musique et tout. Moi, je ne savais pas trop quoi faire. Et je devais travailler, quoi. Je devais trouver des revenus. Et, Et non, j'ai eu la... Bah, après une année un petit peu difficile, j'allais avoir 30 ans. Et dans, sur mon CV, j'étais chanteuse de malicorne. C'était pas évident, donc il fallait des coups de main. Et c'est un ami qui m'a fait rentrer, enfin qui m'a présenté les gens de la petite maison de disques Virgin. C'était Richard Branson en Angleterre, Virgin, qui ouvrait une petite succursale en France. Il y avait 8 personnes. Et au début, on n'a pas voulu de moi parce que on m'a dit que quand on avait été artiste, on pouvait pas passer de l'autre côté de la barrière. Ce que j'ai trouvé complètement ridicule.
Règle qui sort de nulle part.
Ah oui, complètement, ben, complètement faux, justement. Enfin bref. Donc, je me suis retrouvée pleurant sur le trottoir d'en face, comme dirait Souchon, pas assis, mais pleurant. Et puis, ils m'ont rappelé en disant, oh ben, on a vu votre CV, là, notre standardiste ne revient pas le 2 janvier. J'ai dit, ben, j'arrive. Donc, j'ai commencé... Après Malicorne et un an de un peu de désespoir, une fille dans le désespoir total, au standard de cette petite maison de disques. Et en fait, ça a été ma grande, grande chance. Parce que déjà, la boîte, c'était la meilleure boîte de disques du monde. Et c'est vrai, elle est restée très, très longtemps. Et puis, rentrer au standard, je ne pouvais que monter. Hein. Soit ils me laissaient au standard et là, je dépérissais. Et c'est ce que j'ai fait, promo international, machin, et j'ai monté dans l'échelle dans le boulot au fur et à mesure que cette maison grossissait, et elle a beaucoup grossi parce qu'on avait les meilleurs artistes.
Ouais, j'allais te demander qui étaient les artistes signés chez Virgin dans les années 80.
Lerita Mitsuko, Téléphone qui a signé chez nous. Lerita, Stéphane Escher, Alain Souchon ensuite, et on avait beaucoup d'anglais, vu que c'était une boîte anglaise, Culture Club, Boy George, Orchestral Manoeuvre in the Dark, Mike Oldfield, Tubular Bells, tout ce que Richard Branson signait, ça faisait des malheurs dans le monde entier. Il signe Tubular Bells, un mec qui tape sur des tubulars là. Et des millions et des millions et des millions d'albums. Voilà, donc nous on avait ces artistes-là, plus les signatures françaises qui étaient toutes géniales parce qu'on avait un esprit on n'était pas une grosse majeure indépendante. On laissait la liberté aux artistes. On était peu nombreux, on était plutôt rigolos. Pas formel, pas le contrat machin, pas le look, pas le voilà. Et donc ceux qui avaient envie de faire un truc un peu spécial, ils voulaient signer chez Virgin.
Parce qu'ils savaient qu'ils auraient l'espace pour garder leur singularité, voilà, ce serait pas standardisé.
Ouais ouais. Non bah toi, Lerita.
Bah, Lerita, ouais.
Lerita, Marcia Baila, pareil, pfft, le monde entier quoi. J'en oublie plein, mais. Ils étaient tous très chouettes. Voilà. Et donc, j'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance. Ça a été un autre métier, mais justement, quand on l'a fait soi-même, on sait ce que c'est que d'être artiste, quoi.
Oui.
Aussi. On sait les failles, les faiblesses, les anxiétés, les... Ouais. Étienne Dao, j'avais oublié Dao. Dao au début, il était mort de trouille pour tout. on le rassurait tout le temps. Adorable, charmant, machin, mais voilà, premier. Les débuts, quoi. Il n'était jamais sûr. Grandir avec ce genre d'artiste, c'est quand même sympa, quoi. Donc en fait, après Malicorne, je recevais encore du courrier. J'étais au standard. Virgin, bonjour, nana. Et chez moi, j'avais du courrier. Dans votre château, à jouer de la vielle, vous devez faire des trucs. Les gens m'imaginaient dans une tour de château. Voilà, c'était beaucoup plus terre à terre que ça, ma vie. Mais quand je dis que j'ai eu de la chance, j'ai eu de la chance. Je trouve tout le temps, de rencontrer Gabriel. Bon, je faisais Sciences Po pour être grand reporter. Je ne savais pas trop. Bon, évidemment, j'étais trop amoureuse pour étudier, donc j'ai foiré après. Et puis, bah, du coup, ma licorne, quand même, on ne peut pas mieux de 20 ans à 28 ans de faire ça. Ouais, on ne peut pas mieux, quoi. On ne peut pas rêver mieux. Et puis après, entrer dans cette maison de disques incroyable, voilà. Donc j'ai eu vraiment. Après, j'y suis restée 28 ans. Donc,
Oui, une belle carrière, oui.
ouais. Et puis encore, là, une fois de la chance, parce que je m'occupais plus des internationaux, enfin, beaucoup d'anglais. Peter Gabriel. Oh, non, mais être ami avec Peter Gabriel. Non, mais il faut s'en rendre compte. Bah, j'ai eu cette chance-là. Ami, bon, peut-être que. Non, non. Non, on s'est bien entendu. Et après, il y a eu via beaucoup Peter Gabriel et son label Real World, et d'autres, hein, beaucoup d'autres, la mode des musiques du monde. Mon cher Virgin, qui était plutôt rock'n'roll et tout ça, un Africain, machin, un Pakistanais, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Et moi, ça me parlait.
Bah oui.
Voilà, vu mon les sons de la, les sons d'une vielle à roue, si on aime ça, bon, on peut aimer beaucoup de trucs. On est d'accord, on peut aimer beaucoup de sons bizarres. Et donc moi ça me parlait, donc après voilà, j'ai eu la responsabilité de ce pôle-là, musique du monde. Donc c'était super quoi, ouais, Youssou N'Dour, Nusrat Fateh Ali Khan, tout ça. Et là j'ai pu revoyager en plus. Parce que
Ouais.
j'avais un grand leitmotiv, c'était pour que les journalistes comprennent, il faut qu'ils aillent sur place écouter. Donc je faisais des voyages de presse.
C'était
Bon,
vachement audacieux comme démarche.
oui, mais ça marchait bien.
Oui.
Parce que c'est vrai que un disque comme ça, d'une musique que tu n'as jamais entendue, avec des modalités différentes, tu peux te dire, c'est pas pour moi, je comprends pas, quoi. Et puis, si tu entends le même artiste devant son public, l'enthousiasme, ne serait-ce que le climat, la chaleur, le machin, les gens qui jouent, bah tu es pris tout de suite.
Et la manière dont c'est écouté
Et
aussi.
la manière dont c'est écouté, voilà. Donc je revenais avec des émissions de radio, des articles, et ça marchait bien, ouais, voyage de presse.
Officiellement, mais pour toi, ça devait représenter beaucoup plus.
Ben pour moi, j'étais contente quand un artiste pouvait, enfin, quand un artiste pouvait marcher, quoi. Quand ça marche pas, on est très malheureux. Et l'artiste, enfin, ces artistes-là, musique du monde, ils s'en fichaient un petit peu, bien sûr. Ils étaient contents de venir. Après, ils venaient à Paris, en France, à Paris, machin. Ben oui, ils étaient très 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 contents. Mais ils étaient déjà connus dans leur pays, eux. Donc
Oui, donc c'était une extension de leur carrière en
ils
fait.
avaient,
Ouais.
oui. Moi, j'étais contente que justement Virgin dise, les gens de Virgin, les boss disent, ah, c'est intéressant ça. Ça nous fait gagner de l'argent là-bas. Ouais, bah oui, ouais, quand même.
Oui, puis pour nous, c'est important qu'il y ait un Youssou N'Dour dans notre paysage
Oui,
musical
bah oui, bien sûr.
en France,
Ouais, voilà.
qui fasse partie des musiques qu'on a entendues et qui ont façonné
Voilà
notre
cet
écoute.
apport de musique du monde, parce qu'avant vraiment, il y a pas grand-chose, hein. Un peu d'Oum Kalsoum pour les. Non, et encore, il fallait être du Moyen-Orient et tout ça pour l'écouter.
Férouz, dans le même genre.
Férouz, oui, mais ça restait dans les foyers. Non, non, pas français de souche. Non, on n'avait pas beaucoup accès. Et heureusement, des gens se sont lancés là-dedans, ont lancé des petits labels, des journalistes se sont spécialisés, etc. Il y avait même des médias qui se sont ouverts à ça. Un peu France Inter, Radio Nova, bien sûr.
FIP.
FIP aussi, FIP, oui. Et par contre, hein, toutes les radios, France Inter inclus. Parce que je me suis beaucoup occupée aussi de Rai. Il y avait Raled chez Universal. Et on pensait les entendre à la radio. Eh bien non, jamais. Jamais. Jamais ils sont passés sur les ondes françaises. Pas à cause des programmateurs, à cause du Front National qui était déjà là et qui incendiait et qui, toute la journée, appelait les standards en disant, en menaçant, en insultant. Mais... Ça, j'ai su parce que je leur disais, mais c'est pas possible, les gens aiment ça. Et en club, on danse là-dessus et tout ça. Pourquoi vous le passez pas? Mais faut le passer. Les FM, tout ça, ils disaient, non, non, on prend pas ce risque-là. C'est, pour nous, c'est l'enfer. Alors, ce qu'on entendait, Universal, pas bête du tout, voyait que c'était fait pour être un tube.
Oui.
Et ils ont acheté. Ils ont acheté des 30 secondes, des 40 secondes, mais comme une pub. Et on entendait et ça restait dans la tête. Après les gens achetaient le disque et puis se le passaient dans les maisons, mais c'est pas passé en radio. C'est fou ça. La télé était plus courageuse. Il est passé en télé. Une émission de télé, ben les gens du Front National, tout ça, ils pouvaient pas. C'était souvent enregistré à l'avance, c'était jamais en direct. Ils pouvaient pas manifester leur désapprobation. Mais la radio, dès qu'ils entendaient qu'ils appelaient le standard, ils bouchaient les lignes. Enfin, ça donnait, voilà, ça mettait les radios en difficulté. Donc, ils préféraient éviter. En gros, c'est ça. N'empêche que ce courant a bien, bien marché. Et il y a eu 2001, les tours, là. Ouais. Et ça a vraiment changé le paysage.
Ah oui, il y a une conséquence pour moi, directe sur le paysage musical.
Ouais, je l'ai senti tout de suite. Et de la part des artistes, et de la part de la réception du maghrébin, voilà, ça a été associé. Oui,
du monde arabe en général, parce que là, on assimile tout dans le même sac. Ouais.
Oui. Mais ça a été. Ils ont réussi leur coup pour qu'on ne s'entende plus, qu'on ait peur les uns des autres.
Oui.
Ouais, et ils réussissent encore mieux leur coup, là, de plus en plus. Bah oui, voilà. Alors que c'est... Mais vraiment, quoi, ça... C'était chouette de voir tout le monde ensemble. Il n'y avait aucun souci. Ouais. C'est moins bien, hein. C'est moins bien.
Ah non, on va finir avec le mettre comme en tête, c'était mieux avant.
Ah là.
Et tu as parlé très rapidement de ta prime jeunesse. Est-ce qu'on peut revenir dessus? C'est ce que t'es née à Meudon, si je suis bien renseignée.
À Chaville.
Ah bah tu vois, il y a marqué Meudon sur Internet.
Oh, n'importe quoi.
Il faudra corriger la page Wikipédia de Marie de Malicorne.
Oh là là, je crois que j'y suis jamais allée. Oui, ça doit être gratiné. Je sais pas.
Et dans quel univers est-ce que tu grandis? Et musicalement aussi, quels sont tes premiers contacts avec la musique?
Donc je grandis dans une famille de petite bourgeoisie, père fonctionnaire, maman à la maison, 4 enfants.
À Chaville?
Non. Quand j'avais 2 ans, on a déménagé à Paris. Donc parisienne, oui, parisienne. Et petite, enfin... voilà, j'ai démarré par Clo-Clo, tout ça. Non, pas beaucoup, en fait. Mais à 12 ans, oui, c'était 12 ans, mon grand frère, qui jouait déjà de la guitare et tout, ramène Bob Dylan à la maison. Et là, mes parents ne sont pas là, je ne me rappelle plus. Il met le disque. Là, je m'allonge par terre près de l'enceinte, là, et je décolle pas. Je décolle jamais. Enfin, je décolle pas, quoi. Ça. C'est le
coup de foudre.
Ouais, vraiment, un coup de foudre. Un poster de Clo-Clo, plus rien. Et je commence à démarcher vraiment. Alors, je passe à... Bon, j'essayais de à 12 ans, quoi, mais Peter Paulin de Marie, Hugo Frey chante Dylan, des trucs comme ça. Le folk américain. Folk américain, je demande une guitare. Non, même pas, j'avais un livret de caisse d'épargne qui est en douce, je prends. Je crois que j'avais l'âge, je ne sais plus. Et sans rien dire, je prends les sous du livret de caisse d'épargne et je vais m'acheter ma première guitare. Guitare folk, guitare...
Là, t'as quel âge pour ta première guitare?
Je dois avoir 13 ou 14, ouais. 14 ans. Et j'apprends les premiers trucs de guitare, John Baez. Et chez Virgin, j'ai eu la chance de m'occuper de John Baez.
Waouh.
Non mais, tu vois, j'avais oublié John Baez. Qui était donc, dans mon adolescence, une idole, évidemment, une idole intouchable pour moi. Et puis là, ben voilà, on dîne ensemble et tout. J'étais là, mais je me pince, c'est pas possible. oui, donc ça a été ça. Merci mon grand frère, Dylan. Je ne sais pas ce que cette voix m'a fait, je ne sais pas ce que... Et je suis toujours complètement Dylan maniaque. Et donc de là, donc au lycée, j'étais un peu la seule à m'intéresser à cette musique. J'allais des fois au Lido, musique, trouver des trucs, des albums de musique des Appalaches, de bluegrass, de trucs comme ça, introuvables ailleurs. Et il y a eu le premier folk club à Paris, avec l'église américaine, où j'allais aussi en douce, sans la permission de mes parents.
Dans le 7e, là ?
Non, c'était le TMS, il était à l'église Saint-Germain-des-Prés, derrière l'église Saint-Germain-des-Prés. Et là, il y avait des gars à cheveux longs, banjo, guitare, Bill de Rem jouait beaucoup là. Le New Ragged Company, qui était le groupe de Gabriel Yacoub. Moi, j'étais complètement en admiration. Groupie chez groupie. Et voilà, donc j'ai connu Gabriel. Donc voilà, de Dylan à mon propre cheminement, apprendre à jouer de la guitare, des arpèges et tout ça, à chercher dans ce genre de musique, aller là où je pouvais la trouver, ce folk club parisien, rencontrer avec Gabriel Yacoub et Malikom, voilà.
Mais est-ce que tu as rencontré Dylan ? Les gens veulent savoir.
Et... non mais c'est tellement bête, mais il faut que je le raconte quand même. Oui, ben je l'ai vu. Alors, non, il jouait à Bercy. Il jouait à Bercy. Et je dis à Gérard Drouot, qui faisait le concert que je connaissais, je lui dis, fais-moi un backstage, de loin, machin, mais donne-moi un backstage. Il me dit, mais c'est pas la peine. Et de toute manière, dernière note, il est monté, il est parti. Je dis, je m'en fiche, je veux respirer l'air qu'il a respiré. Enfin, bref. Donc, j'ai mon backstage. Je largue tout le monde. Je vais backstage dans le Zénith. Et il y a le bus qui est là, grand bus. C'était, il jouait avec Tom Petty et tout ça à ce moment-là. Wow. Et donc, j'aperçois les musiciens, le bus et tout. Moteur allumé. Bon, bah, je dis, il n'y avait plus personne. Mais Bercy, c'est tout rond comme ça. Donc, je marche un peu. Je dis, ça, c'est la loge de Diable. Je prends un gobelet en carton que je mets dans mon sac. Enfin, tu vois, c'est vraiment le truc, voilà.
Limite bizarre.
Non, s'il avait bu dedans, tu te rends pas compte. Oui, oui, non, mais je te dis, hein, c'est pas des blagues. Hein. J'étais vraiment comme ça. Et puis, bon, ben, voilà, j'ai fait le tour. Il y a des petits ronds-points comme ça. Je m'arrête là, puis je vois une silhouette arriver. Sweat, capuche, il porte une guitare. Moi, je suis comme ça. Plus ça s'approche, je dis, mais c'était lui. C'est tout seul, qui venait de je sais pas où, son suite, il portait sa guitare. Moi, alors, pétrifié, j'étais là, comme ça, statue de pierre. Et il me jette un vague coup d'œil de ses yeux bleus. De il me fait, hello, comme ça. Et moi, j'arrive. Voilà, et il est passé. Voilà ma rencontre avec Dylan. Génial, hein ? Génial. Ah là, mais qu'est-ce que tu veux dire à quelqu'un que tu veux ? Je ne pouvais pas lui dire, j'aime beaucoup ce que vous faites, tu vois. Non, non, j'avais rien à dire. Enfin, voilà.
Enfin, c'est ce que tu aurais dit, mais ça aurait été tellement minime par rapport à ce que tu ressens.
C'était impossible, mais voilà, il m'a regardé, il m'a fait hello. Genre, qu'est-ce que tu vois ? Et puis, il montait dans le bus, donc il ne partait pas tout de suite. Ah ! Voilà, voilà.
Il a peut-être oublié son gobelet, il l'a cherché partout.
Ça doit être ça, mais ouais.
Il dit merde, my favorite goblet. Oui. On a parlé de l'éveil écologique, donc des années 70 à ce que ça donne aujourd'hui. Je voulais qu'on parle aussi d'un autre aspect politique qui serait le féminisme, si tu veux bien. Toi qui as été donc femme artiste dès les années 70... Qu'est-ce que c'était d'être la fille de Malicorne ? Je mets des guillemets avec les doigts à cette phrase. Et qu'est-ce que tu penses du monde d'aujourd'hui ?
Alors, le féminisme à mon époque malicornienne, j'en avais pas trop conscience, car j'avais justement intégré dans mon éducation et dans cette société, quand même la hiérarchie homme-femme. Ma mère était une maman à la maison, S'il y avait des trucs à demander, c'était demande à ton père. Ben, c'était vraiment comme ça, quoi. Le père décidait des choses graves et la mère, elle faisait l'intendance de toute ta maison et des enfants. Bon, à ma génération, je me suis dit, je ne vais pas faire comme ça quand même. Hein. Ça, c'est sûr que j'avais pensé à une autre trajectoire pour moi, c'est sûr. Mais pas revendicatrice. Oui, c'est ça.
Revendicatrice.
Pas en tapant du poing sur la table et tout ça. En douce, trouver la pilule, par exemple, en douce.
En douce, c'est-à-dire en cachette de tes parents ?
En cachette de mes parents.
Mais c'était en vente
Ah non, non, non.
Ah, comment tu te l'es...
Pas du tout. Bah, c'était une femme gynéco. Avant 21 ans, il fallait l'autorisation des parents.
Oui, parce que tu es encore de la génération où tu es ouais. Majeure à 21 ans.
Voilà. Et moi, je rencontre Gabriel et bon, et j'avais pas 21 ans. Et l'idée de demander à ma mère, elle aurait dit oui, puis après elle aurait dit, mais va demander à ton père. Et là, c'était pas possible. Voilà, c'était ça quand même. J'aimais beaucoup mon père, mais sur des trucs comme ça, non, quoi. C'était pas possible. Donc cette femme aidait les jeunes filles à... Elle donnait des pilules. Alors des pilules surdosées qui te faisaient un mal de chien, qui m'ont rendu très très malade. Du coup, ma mère m'a emmené voir un vrai médecin qui m'a donné une pilule correcte. Mais il a fallu passer par une...
Oui.
Tu vois, par des hémorragies, par des trucs complètement idiots, tu vois. Mais ouais. Et ben on est en 71. Ouais. 70, ouais, 71.
On n'est même pas encore sous Giscard, quoi. Ouais.
Ouais. Oui, oui. C'est... Bah oui, c'est encore Pompidou. C'est Pompidou. Tout ça. Ouais. C'est vraiment la vieille France encore. Mmh. Hein. Bon, il y avait eu 68 quand même qui avait fait beaucoup bouger. Ah, oui, 68. Merci quand même.
Mais dans les faits, voilà, se procurer une contraception, c'était la croix à la bannière.
Oui. Alors, bah, pareil, évidemment, les avortements, tout ça, tu en as entendu parler. Voilà. Donc, la trouille de tomber enceinte, c'était horrible. Bah oui, il y avait tout ça. Mais le féminisme, et puis après, Manicorne, mon statut était, j'étais pas une grande musicienne et j'étais pas une grande chanteuse. J'étais pas la star du groupe. Moi, j'étais Gabriel et Marie.
Oui.
C'était comme ça. C'était Gabriel le musicien, quand même la voix lead, le... Et moi, parce que j'étais avec lui, j'ai fait Malicorne. J'aurais pas fait de musique sinon. Tu vois, non, c'est vrai qu'il y avait cette... Donc mon statut était plutôt dans le groupe Gabriel et Marie. Voilà. Il m'aidait beaucoup à accorder mes instruments. Tu vois, j'étais pas un cador en musique. La grande chance, c'était que ma voix et celle de Gabriel, ça s'accordait vachement bien.
Oui.
Et il y a eu une osmose, à force de chanter ensemble, ses respirations, ses trucs, ses intonations, je les avais dans l'oreille, quoi. Donc ça, pour le son de Malicorne, c'était vraiment important. Mais ma place en tant que fille, je la ramenais pas trop. Sauf des fois, si on voulait me faire chanter des choses qui ne me plaisaient pas, voilà, je disais, cette chanson-là, elle est pour moi. Toujours des chansons un peu de filles, qui parlaient de sujets qui pouvaient me convenir.
Oui, bah dans le milieu, voilà. dont le répertoire trad est pétri.
Enfin,
y a énormément de chansons qui sont des histoires de femmes qu'on s'est transmises. Hein.
Oui, c'était pas mieux avant, finalement.
Ah non, c'était pas mieux avant. C'était pas mieux mariage avant. Forcé. Voilà. Pas d'avortement, mais c'est des infanticides.
Voilà. Ouais.
Bon, des viols qui disent pas leur nom. Je pense à la Blanche Biche, parce qu'on en avait parlé quand on s'était rencontrés.
Oui, oui.
Non,
ah pas, non, non, pas le, mieux le avant. Le statut des femmes était... Déjà les progrès, c'est les guerres qui ont amené ça quand même. Hein. Comme les femmes ont remplacé les hommes, on ne pouvait pas les remettre tout à fait au fourneau et de fermer leur bouche après. Mais elles restaient quand même... et le droit de vote, je ne sais plus, il est récent hein, pour les femmes. Ma mère, elle n'avait pas de chéquier, c'était... Bon, voilà, tout ça. pour elle, c'était comme ça, c'était bon. Déjà, par rapport à sa mère, à elle, c'était un net progrès, de liberté, voilà, de faire ce qu'elle voulait, tout ça, d'avoir son mot à dire, bien évidemment. Et ensuite, ma génération, 68, la pilule, tout ça, bon, la liberté, bon, les vieux fermés là. C'est la première fois qu'on disait à nos parents, qu'on se permettait de dire à nos parents, hey, on décide ce qu'on veut faire. Beaucoup avant, c'était la tradition familiale, oui. Le père qui exige du fils, etc., etc., de reprendre, pas partout, mais beaucoup quand même. Et donc, c'est allé vachement vite, quoi. Enfin, merci tous ceux qui ont agi pour ça, hein. C'est allé vite, le changement de statut des femmes. Et j'ai une fille, Julia, on a très, très, très féministe. Elle a raison, mais des fois, elle s'énerve, elle dit... je lui dis, mais attends, toi, pour les gens, même pour moi, quand tu me dis... oui, mais ça, c'est normal que ça se passe comme ça, etc. Je dis, tu vois, je viens d'une époque où même l'homosexualité m'avait pas parlé avant Virgin, tu vois, avant 30 ans. Oui. J'en ai pas rencontré. C'était pas que j'étais pour ou contre et tout ça, c'était abstrait,
en fait.
J'en parlais pas et tout ça. Et quand mes parents à table, alors pédale, machin, alors c'était le truc où...
Voilà. Oui, mais il y avait une culture hyper homophobe, de toute manière.
Oui, bien sûr.
Quelque chose d'ambiant.
Mais du coup, moi, je ne savais pas trop ce que c'était. Enfin, je ne m'étais pas beaucoup intéressée à ça. J'avais pas l'occasion dans mon entourage d'en connaître. Et c'est vraiment chez Virgin, la musique et tout ça, et puis le sida, les débuts du sida, tout ça, que j'ai rencontré beaucoup d'homosexuels et que j'ai compris ce que c'était et que... Il y a eu tellement d'interdits, il y a eu tellement... La religion, c'est pas bien, c'est... Bon, voilà, c'est petit à petit. Bon, moi, c'est fait, plus ou moins. J'espère.
Je voulais revenir sur les voyages et sur les objets, parce qu'on est chez toi et on est entouré de magnifiques objets. Tu m'as dit en préparant l'émission que tu étais attachée au matériel, à ce que tu rapportes de voyage. Est-ce que tu peux bien nous en parler? Je pense notamment à cette magnifique kalimba, qui n'en est pas une, parce que ça ne s'appelle pas comme ça, parce que ça ne vient pas de là, mais...
Oui. Et bien après, justement, j'ai eu j'ai pas fait des tours du monde, mais j'ai pu me rattraper, parce que, toute la période Malicorne et tout ça, on avait tout l'été, machin, bon, c'était les concerts, les tournées, les enregistrements... Gabriel n'était pas féru de voyage plus que ça, et puis on n'avait pas l'envie plus que ça non plus. Mais voilà, la première fois où j'ai franchi le pas, je suis allée en Thaïlande et en Birmanie. C'était un peu le même choc que pour Bob Dylan. ça m'a C'est pour ça que aussi au début, à 17-18 ans, quand je me suis dit je vais être grand reporter, bon, je savais pas bien ce que c'était, mais c'était un boulot pour voyager. Ça, je l'avais déjà dans la tête. Donc finalement, ça, rien ne s'en va. Et j'ai pu le faire, donc à partir du moment où j'ai eu un peu plus de sous. Et toutes mes vacances, c'était pour aller, après ce voyage, beaucoup l'Inde. Qui m'a, comme beaucoup de gens, m'a complètement pris sous sa magie. C'est dur, mais c'est fantastique. C'est tellement grand qu'on peut y aller plein, plein de fois. Complètement aussi fan de Alexandra Davinny, le Tibet. Le Tibet, où je réussissais pas à rentrer parce que c'était interdit, parce que c'était salaud chinois. Toujours, je maintiens. Et donc, trois fois avant de pouvoir avoir un tampon qui me donnait l'accès au Tibet, suivi d'un guide chinois. Et finalement, le guide chinois, je ne l'ai jamais vu. Donc, impeccable. Et j'ai pu aller au Tibet. Il y a beaucoup d'objets tibétains. Parce que ça, c'était... Je suis un petit peu navrée, d'ailleurs, parce que je les ai rachetés à des Tibétains en perdition, quoi. Le Tibet était envahi par les Chinois, les monastères rasés, les gens étaient sur les routes, j'ai rencontré des familles, c'est vraiment horrible ce qu'on a fait à ce peuple. Mmh. Vraiment horrible, quoi. Colonisation forcée, et comme ils n'arrivaient pas à les dompter, à les faire changer vraiment, ils vénéraient toujours le Dalai Lama, leur bouddhisme, etc. La seule solution a été de qu'il y ait beaucoup plus de Chinois que de Tibétains au Tibet. Et voilà. Et de raser tous les monastères qui étaient le pilier de leur civilisation, de leur philosophie. Et c'était vraiment triste, quoi. Donc il y en a beaucoup qui vendaient un peu leur truc. Et moi, je les ai rachetés. Bon, peut-être pas terrible, mais... En tout cas, j'y tiens. Donc voilà, et tous ces objets. Et c'est vrai que j'aime les objets. Ils ont, pour moi, je sais pas, ils vivent, ils sont importants pour moi.
Ce sont des fenêtres sur chacun de ces voyages.
Oui, ça me rappelle, je sais exactement à chaque moment, à chaque endroit, à chaque instant où j'ai acheté, où j'ai acquis ces objets. Ouais, je pense à peu près tous, ouais. Et dans ma petite maison à la campagne, j'en ai encore plus.
Et t'as toujours ta guitare ?
Ouais, elle est là, mais elle dépérit.
Ah oui, elle est là.
Elle dépérit. Je devrais pas l'avoir, c'est une petite Martine 008, une petite Martine, elle est magnifique.
Elle est super belle.
Ouais, ouais, et j'en joue plus. Des fois je la reprends, puis je suis tellement mauvaise que ça me décourage. Mais c'est voilà, je la mérite pas.
Oh.
Ben non.
C'est celle de toujours ? Non, c'est...
Ah non, c'était pas celle que j'ai achetée avec mon livret de caisse d'épargne. Ah non, c'était une grosse Framus trop lourde qui m'arrachait les doigts.
Et qui te rendait infiniment heureuse.
Ah oui, elle était blanche. Pas pourquoi, mais... Ah non, elle était laide et trop lourde. Mais je sais pas. Ben voilà, c'était celle-là. Et... Oh bah ben oui, quand je l'ai eue, oh là là, j'étais fière. Ah oui. J'étais fière.
Tu sais pas ce qu'elle est devenue, cette guitare ?
Non. Si, je l'ai offert à ma cousine, si, je me rappelle, ça y est. Parce qu'après, j'en ai eu une plus petite, une vraie guitare folk, que je ne sais pas ce qu'elle est devenue, d'ailleurs, celle-là. Et après, celle-là, au début de Malicorne.
Ah, mais voilà, donc, bah, c'est pour ça que tu la gardes, c'est la guitare de Malicorne.
Oui,
ah,
oui, quand celle-là, même. Ouais, je l'ai achetée à Londres, elle aurait appartenu à Peter Green, enfin bon, je sais pas. Mais bon, c'est une guitare qui a vraiment une âme, une carrière, et puis elle a fini chez Maris, elle doit être un peu triste. Ouais. Mais elle retrouvera quelqu'un. Ouais, ouais. Là, pour l'instant, je te garde, mais tu trouveras quelqu'un.
Et t'as écrit de la musique ?
Non, très peu. Très peu parce que c'était trop bizarre. Mais j'écris pas la musique. Et je proposais des trucs, des fois, à Malicorne. Il me disait, pas évident, là, ce que tu nous...
Moi,
je trouvais que c'était, ça allait. Et lui, il trouvait ça très bizarre. Donc, j'ai pas fait... Non, je me suis pas beaucoup... j'ai pas beaucoup écrit, non, non.
Ni des textes ?
Non, non plus. Non, non.
Mais t'aurais aimé ?
Ben, oui. J'avais fait une petite maquette à la fin de Malicorne et je l'ai passée à quelques personnes et ils m'ont dit que c'était mille fois trop triste. Et qu'il valait mieux que je fasse autre chose.
Donc t'as fait standardiste à Virgin.
Donc voilà, exactement. J'ai dit, bah mince, je suis dans une maison de 10, je vais la refaire écouter. Et puis vu les témoignages, les réactions, j'ai dit, oh non, bah fais pas ça, garde tout ça pour toi.
Puis Malicorne s'est reformé quelque temps, il y a quelques années.
Oui, c'était parce que quand on a arrêté, on avait 8-9 ans de concerts et tout ça. Le groupe avait pas mal changé entre-temps. Et l'époque avait changé, enfin la musique avait changé aussi, toute la la mode, parce qu'il y a des modes, hein, on ne peut pas s'en cacher, du folk et tout ça avait passé. On arrivait aux musiques électro, au punk et tout ça. Donc, oula, on était loin du folk. Niveau répertoire, on avait du mal à retrouver des chansons aussi fortes que déjà les 7 albums qu'on avait enregistrés. Donc on tournait un petit peu en rond. Moi j'ai dit, attends, chanter les bergers et les bergères, là, j'ai envie de dire des trucs. Oui. Là, ça va, on a choisi les chansons qui disaient des trucs. Maintenant, on tourne un peu en rond. Donc il y avait ça, et puis l'usure d'un groupe et tout. Et donc après un mauvais concert, on s'est retrouvés dans les loges, et puis je ne sais pas ce qu'il nous a pris, on a dû boire un coup. Et on a dit, et si on votait, est-ce qu'on arrête ou est-ce qu'on continue? Et on a tous levé la main, on arrête. C'était unanime, donc il restait quelques concerts, mais... Et on a revoté en disant, ça c'était Gabriel qui avait demandé ça, et on revote disant qu'on ne se reformera jamais. Et on revote tous, unanimement, main levée. Et donc on finit les quelques concerts et on tient parole. Donc voilà, on est en 81, un truc comme ça. Donc chacun s'éparpille. Moi je me sépare de Gabriel en plus. Bon, ça, ce qui était déjà dans l'air, ce qui a peut-être aussi activé cette histoire. Et chacun fait son truc. Et je quitte Virgin en 2008. Insatisfaite du tour que prenait cette maison de disques, rachetée par EMI. Et j'avais eu un tellement beau métier où on écoutait un artiste, on découvrait un artiste, on écoutait un album en disant « Oh, ça me plaît
ouais. !»
Et on y allait tous. Et après, c'était « Combien penses-tu en vendre ?» Je dis « Je sais pas, j'ai pas écouté l'album. » « Oui, non, mais combien penses-tu en vendre ?» Je répète, je n'ai pas écouté l'album. Ce n'était pas du tout le raisonnement à avoir. C'était « Je pense en vendre. » Oh.
C'était pas artistique, quoi.
Voilà. Donc, c'était... Et pour arriver à ces X milliers d'albums, eh ben, on va faire ça, que l'artiste soit un peu d'accord, que ça lui convienne. Je caricature un peu, mais pas trop. Hein. Il y avait quand même beaucoup de ça, et c'était pas du tout l'ambiance que j'avais connue dans le Virgin, que j'aimais, quoi. Et puis en plus, dirigée par des gens que j'estimais pas, enfin voilà. Donc je pars, et un an après, j'avais connu quand même pas mal de gens, et Gérard Pont m'appelle, qui aimait beaucoup Malicorne, qui connaissait Malicorne, il est breton d'origine, Stevel, Malicorne, c'est sa musique. Il m'appelle et il me dit « Bon Marie, je t'appelle parce qu'au Francofolie de 2010, je voudrais Malicorne sur scène. » J'éclaterai, je dis « Elle est bien bonne Gérard. » Et ben ok, écoute, vas-y, fais-toi plaisir. Bon, je crois que c'est qu'il plaisante, quoi. Et puis non, il ne plaisante pas, il dit « Non, je veux vraiment Malicorne. » Je dis « Mais ça fait 30 ans qu'on a arrêté. » Et puis, je sais pas moi les autres, mais on a arrêté depuis 30 ans Gérard. Et alors, je vous mets en confort, je vous paye les répétitions, vous vous retrouvez, ça ne s'oublie pas, tout ça. Et voilà, et convaincu. Donc je fais le mail aux copains en disant « gala », parce qu'on rigolait beaucoup sur le mot « gala », qui était l'ancienne, justement, les anciens de l'ancienne génération qui faisaient des galas. Donc je leur dis « gala », point d'exclamation, et je leur explique le truc. Alors, Olivier, Laurent, Hugues, « ah ouais, ça les titille ». Gabriel, non. Je dis, quoi ? On a dit qu'on se reformerait jamais. Je dis, oh, ça va, il y a 30 ans, c'est bon. Et il maintient son truc, enfin vraiment, tête de mule celui-là. Alors, il maintient, alors que tout le monde frétillait de plus en plus en disant, bah attends, quand même, tu vois, ça serait génial. Hein. Et en fait, Gérard Pont, malin, je dis à Gérard, il y a le chef, il veut pas. Il veut pas que Malicorne, c'est pour lui, voilà, il a dit. Et Gérard a trouvé un biais en disant « Malicorne invite la génération d'après
ouais. ».
Et donc il y a Malicorne et en plus petit « invite », machin. Donc c'était pas « Malicorne revient », c'était « Malicorne invite ». Et là, ok. Donc il a dit « ok ». Et d'ailleurs, mais on a failli même pas être sur l'affiche et tout, tellement il s'était « non, je te jure ». Et puis Gérard a tenu parole, donc il nous a mis dans un studio, on a pu répéter, on a pu se retrouver, on a retrouvé le son, voilà, l'enthousiasme et tout. C'était émouvant, c'était très bizarre. C'était très bizarre. Moi, j'étais comme ça parce que j'avais pas chanté, ma voix, ça allait pas du tout. Enfin bref, oh là là. Alors, me revoir toute seule dans mon salon, rechanter Marion les Roses 10 fois par jour. Je disais, mais qu'est-ce que je suis en train de faire?
Pourquoi je m'inflige ça?
Voilà, oui. Voilà. Et puis, du coup, avec ses invités, voilà, ce fut. Et puis le Gérard me dit, mais attends, dès que ça a été annoncé, ça a été plein. Les gens, voilà, 30 ans après, n'avaient pas oublié. Alors, c'était pas sur le port, là, dans la grande scène, mais c'était quand même, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais enfin, une très belle salle. La coursive, non, je ne sais plus, bref. Et puis, là, ouais, la ferveur des gens, l'enthousiasme, l'émotion. C'était vraiment super. Et donc, après, on aurait pu continuer. Gabriel a à nouveau dit non. Et on a passé une année. Puis là, après, il a dit, bon, on va faire Gabriel et Marie Yacoub. Moi, j'avais plus rien à faire. Je dis, bah, ouais, pourquoi pas, tu vois, bon, ouais. Et puis, Gabriel et Marie Yacoub, ça, c'était idiot. Et donc, très vite, de la petite affichette Gabriel et Marie Yacoub, de Malicorne en dessous, c'est devenu Malicorne Gabriel et Marie Yacoub. Voilà, quoi. Et là, on a retourné au moins 2 ou 3 ans. C'était super bien. J'étais contente parce qu'il y avait un vrai son. Et puis les gens étaient là et tout ça. Et puis après, Gabriel a eu ses petits problèmes et on a dû arrêter. Ouais, dommage. Dommage.
Oui, parce que de la fin des années 80 aux années 2010, oui, au niveau technique,
ah oui,
j'ai dû apprécier.
Ah bah ça, c'est
ce
sûr.
Changement.
Ah là là. Ah, le confort. On avait tout le temps des problèmes de retour. Parce que en plus, mélanger un dulcimer, une basse et tout ça, c'était un peu compliqué quand même. Les retours à l'époque, c'était. Alors que là,
la guitare folk, c'est toujours un calvaire à sonoriser.
Oui,
avec des chanteurs.
Voilà. Ouais. Et puis, aussi, oui, le point important de Malicorne et l'originalité de Malicorne, c'était d'avoir introduit dans ce folk dit trad la polyphonie.
Oui.
Et il n'y en avait pas du tout dans la musique trad et dans la manière de chanter. Chanter à plusieurs, mais la même voix. Et nous, on a fait beaucoup de polyphonie, on s'éclatait à faire ça, c'était vraiment bien. Et ça a été aussi notre son, l'originalité de notre son.
En plus de mélanger.
Il y a eu d'autres groupes, il y a eu La Bamboche, il y a eu Mélusine, il y en a eu d'autres, mais qui ne faisaient pas ce genre d'arrangement de voix.
En plus du choix de l'instrumentarium qui était audacieux aussi.
Ouais. Ah, mais en studio, on s'éclatait. On essayait tout. On essayait tout. Moi, je trouve qu'on a inventé la première loupe. Alors maintenant, on les fait sur ordi. Sur la Blanche Biche.
Ah ouais?
Ouais. Avec les. Un truc comme ça. Et bien, chaque note, on la chante. On est devant le micro, puis il fait. À plusieurs. Et après, on les a mis. Et ça donne maintenant ce qu'on appelle une boucle.
Ouais.
Ben là, maintenant, c'est un synthé qui te fait ça en 2 secondes. Nous, ça a pris la journée. C'est l'ingénieur du son qui a eu cette idée. Et quand on a pu entendre l'effet que ça faisait sur... J'ai chanté dessus, je n'avais pas chanté avant. Ça fait la chanson.
Ah bah oui.
Oui, il n'y a pas de doute.
Est-ce que pour toi, il pourrait exister un territoire idéal? Tu as le droit d'être utopiste, en plus. C'était un des thèmes de l'émission.
Non. Ben non, soit c'est notre planète entière qui respire et qui vit avec des gens qui se foutent pas sur la tranche, qui se comprennent, etc. Enfin, tu vois bien. Voilà. Mon territoire idéal. Sinon, s'il est à part des autres, ça fonctionne pas. Je pourrais pas m'en satisfaire. avoir un beau jardin bien grand devant l'océan, ça serait mon territoire idéal. Voilà.
De l'espace quand même.
Mais c'est une propriété privée, ça s'appelle. Oui. C'est pas... Voilà. L'utopie, c'est ça, mais l'utopie, il faut qu'elle soit mondiale. Sinon, si tu sais qu'à côté, il y en a qui crèvent, il y en a qui s'envoient des bombes, tu peux pas être heureux. Enfin, je trouve.
C'est une des choses qui fait que les communautés ont échoué, selon toi ? C'est le manque d'international ?
C'est le propre de l'être humain de pas être bien. C'est pour ça que le communisme ne marche pas, c'est pour ça... On vient quand même aussi du monde animal où chacun défend son truc et le plus fort gagne. Et bon, nous, on raisonne, mais ça reste quand même le plus fort qui gagne. Mmh. Et on n'est pas bienveillant, et on n'est pas gentil à la base. Enfin, on est, je sais pas quoi. Il faut vraiment faire des efforts, se raisonner, pour l'être. Sinon, on a vite fait d'envoyer une baffe à son voisin, hein, pour prendre sa place, etc., etc. Pour avoir plus que lui, pour vivre mieux. Et je crois qu'on est plus fait de mauvais que de bons. Et donc, en plus, on peut se permettre d'être bon quand on est assez à l'aise.
Aussi. Oui, quand on est en haut de la pyramide de Maslow.
Hein, ouais. Mais déjà, si tous ceux qui avaient tout ce qu'il leur faut pouvaient comprendre ça. Ah ouais. Mais non, mais j'entends des trucs, on prendrait 0,01% sur les transactions financières, ça ferait je ne sais plus combien de milliards. Et tu sais, tu entends des trucs comme ça, toi tu es là sur ton canapé, tu te dis, mais alors pourquoi qu'on ne le fait pas ? Pourquoi qu'on ne le fait pas ? Et puis à côté, il y a les gens, le mec de l'abbé Pierre qui arrive, oui, et qui dit, il y a de plus en plus de... Et t'entends ces deux infos dans les 5 minutes, tu dis tout ça est absurde, on pourrait faire mieux. C'est sûr qu'on pourrait faire mieux. C'est clair. Voilà. Maintenant, l'être humain il est pas génial. Je préfère les animaux, j'adore les animaux, parce qu'ils ont pas de méchanceté. Enfin, ils ont pas ce raisonnement d'être de méchanceté. Ils calculent pas. Voilà. Et par contre, ils ont l'entraide et l'empathie. Ça, plus on les étudie et plus on les voit s'entraider, se sauver, ce machin. On les voit aussi se manger, mais parce que c'est, il faut qu'ils se mangent pour vivre. Mais sinon, ils s'entraident. J'ai vu un oiseau avec un coup de vent se taper dans la vitre, donc tomber là, et j'ai vu un autre oiseau rester à côté et avec son aile le remettre sur patte. Je l'ai vu. Donc oui, pour le territoire idéal. Non, ben voilà, c'est les amis, alors. Ouais, l'amitié, essentielle. C'est aussi en territoire personnel, quand on aide, quand on fait partie d'un truc qui aide les autres, eh ben on est beaucoup plus heureux.
Ouais.
Tout le monde le dit, tous les bénévoles, j'ai fait un peu de bénévolat, ça fait un bien fou. Ça fait un bien fou à la personne qui fait du bénévolat. Oui. Hein. Elle rend des services aux autres et elle fait du bien. Mais ça peut être hyper égoïste aussi de se faire du bien. Et c'est pas assez dit, ça, je trouve.
Oui. Et c'est pas grave aussi. Parce qu'on pourrait dire, mais dans ce cas-là, si tu le fais mais que ça te fait du bien, c'est que c'est pas généreux. Bah non, puisque finalement, c'est vertueux, ça fait du bien à tout le monde.
Oui, moi, des fois, on me dit, oh, c'est chouette ce que tu fais. Je dis, non, moi, ça me fait du bien, tu sais. Mm. C'était ma réponse pour essayer qu'ils comprennent que, non, je suis pas altruiste, je me... s'il y a des jours, t'as pas trop envie de sortir et de faire, mais bon. Et puis, tu le fais, c'est comme quand tu vas à la piscine. Tu vois, après, t'es hyper content de toi, t'as fait du bien aux autres et tu t'es donc fait du bien à toi. Ouais, ouais.
Est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé et que tu voudrais qu'on aborde ?
Non, on a fait tous les sujets qui me fâchent, à peu près.
Je suis contente.
On a fait les utopies qui pourraient me rendre heureuse. Peut-être le sujet de vieillir, parce que c'est la première année où je pense à la vieillesse. Avant, tous mes anniversaires, tout, ouais, voilà, c'était la vie, machin, tout ça. Et là, je pense à, parce que ça commence, Voilà, 70, c'est un chiffre qui te...
C'est un beau chiffre.
Non, c'est pas un beau chiffre, c'est un trop gros chiffre. Et là, tu penses à ce qui te reste. Et c'est un raisonnement que j'avais pas trop avant.
Ouais.
Et quand tu arrêtes ce raisonnement, ça change beaucoup de choses.
Ça te rend plus gourmande ?
Oui, mais tout en le faisant pas. Mais donc c'est frustrant. Enfin, ça me concerne. Hein. Je lui dis, attends, tu peux, t'es encore en bonne santé, t'es en pleine forme et tout. Fais ça, voyage là. Et puis je le dis, mais je le fais pas. Ce qui est curieux. Mais bon. Déjà, il faut trouver les personnes pour voyager, c'est pas évident. Mais.
Tu voyages pas seule ?
Je l'ai jamais fait. Et dans mes voyages, j'ai toujours voyagé à deux, au moins. Et beaucoup avec ma fille qui avait 3 ans ou 4 ans, mais avec ma fille. Mmh. Ça, donc, parce que j'ai vu beaucoup de gens qui, après, ils ouvrent leur carnet de voyage, puis ils écrivent, et puis ils vont se coucher. Puis, après une journée, c'est bien de partager avec quelqu'un, quoi. Non, c'est... attends, j'en étais où ? Oui, donc vieillir. C'est pas drôle. Oh non. Non, mais ça... Bah, attends, et tout va bien en plus, mais... Et malgré toi, je m'aperçois que tu renonces à des trucs. Oh, je suis un peu trop vieille. Oh, bah non, je suis un peu... Tu le fais parce que c'est comme ça que ça doit se passer. Voilà, c'était ça.
Eh bien, pour finir, qui est-ce que tu aimerais entendre répondre à ce genre de questions ?
Oh là là, oh, ça c'est une drôle de question. Bob Dylan. Non.
Ouais, grave, t'imagines.
Non, mais il y en a, je sais pas, fou. Ah, quelqu'un, j'aimerais bien l'entendre se raconter, quoi, en gros.
Et parler de lien au territoire.
Ah oui, territoire. Vu mon expérience, je peux vraiment parler de deux mondes. Le citadin et le campagnard. Qui non, mais alors, c'est deux planètes différentes. Je m'exalte un peu, bon, pas tout à fait, mais ça n'a rien à voir. Et j'aurais pas compris ce qui se passe et machin et tout ça si j'avais pas cette petite maison. Vraiment, c'est le centre de la France, limite Creuse. Tu vois, il n'y a pas de touristes, c'est encore des petites fermes. Et ils se sentent, et c'est exactement ce qu'on dit, abandonnés, méprisés, plus de services publics, plus tout ça. Et quand on propose des projets culturels et tout, ça intéresse beaucoup de gens. C'est pas des ploucs, c'est pas des pecnos, c'est pas des... Il y en a, parce que maintenant, ils veulent tous Marine Le Pen. Mais j'arrive même pas à les engueuler parce que... Je leur dis, ben réfléchissez quand même. Mais parce que, bon, d'abord, ils s'y sont tellement bien pris dans les campagnes. Et le moindre bingo, c'est squatté par le Front National maintenant. Mais parce qu'ils leur parlent. Voilà.
Exactement.
Parce qu'ils leur font, ils leur disent, mais c'est vous la France, vous êtes les plus beaux, vous êtes les meilleurs, vous êtes machin, tout ça. On n'est plus chez nous. Et je l'entends, ça, on n'est plus chez nous. Alors que dans le Berry, tu vas croiser un Africain ou un Maghrébin, il n'y a pas... Je suis tellement contente, quand je reprends le métro, je dis « waouh !» Voilà. Mais ils ont la trouille, c'est rentré dans les têtes. Moi, les jeunes, mais les jeunes, ils ne restent pas à la campagne parce qu'ils n'ont rien à faire à la campagne. Et donc, oui, non, j'en veux aux autres politiques. Le Front National est très malin. Ils ont très bien su qu'il y avait tout un grenier de voix là, à solliciter. Et puis, certains médias, et hop, c'est parti. Hein. Ça répète. Ça ne
ouais, les citera pas, on ne va pas leur faire plus de pubs que nécessaire.
Oui. Parce qu'il y a un manque de réflexion, c'est sûr, mais la vie des paysans n'est pas facile. Quand est-ce que tu as le temps de réfléchir, de regarder une émission politique un peu intéressante ou de te renseigner ? Non, pas vraiment. Donc c'est celui qui dit, c'est ce qui se passe justement dans les. Et puis c'est leur ressenti sur place. Hein, voilà. Et oui.
Mais du coup j'invite qui ? Donc Bob Dylan, ouais. Bah ouais, en même temps, tu m'as la classe quoi.
Ah ouais, puis tu m'invites aussi. Comme ça je lui dirai
plus
que...
Ah oui, tu lui diras bonjour. Si tu y arrives.
Non, mais Bob Dylan, non, c'est pas la peine, parce que j'ai lu son bouquin où il, sera, où il raconte tout.
On ne sait jamais, il pourra toujours te dire des choses que tu ne sais pas encore. Voilà, il n'a pas fini, a priori. Ouais. Il a quand même chopé un Nobel de littérature dans la foulée.
Eh oui.
C'est quand même la classe. Ben, merci beaucoup, Marie.
Merci à toi de t'intéresser à Marie de Malicorne.
Ben, avec grand plaisir.
Merci d'avoir écouté cette émission. Alors pour le fact-checking, la chanson El Condor Pasa a été écrite par Daniel Alomía Robles, donc ce n'est pas un trad péruvien. En revanche, si vous aimez le trad, vous pouvez vous refaire l'intégrale de Malicorne et aussi vous abonner à La Cosna, la.cosna, C-O-Z-N-A. Quant à moi, je vous souhaite bon vent et à bientôt dans la carte et le territoire. Secours.